Les deux orphelines, troisième partie,
chapitre 1.
Trois mois environ s'étaient écoulés depuis que M. de Lignières avait été nommé lieutenant général de police, et les choses ne marchaient pas beaucoup mieux qu'autrefois dans Paris. Le comte recevait chaque jour de nombreux rapports constatant que tous les méfaits que le roi avait voulu réprimer en élevant un homme énergique à ce poste de confiance semblaient s'aggraver encore. En effet, d'une part, jamais les malfaiteurs n'avaient déployé autant d'audace dans l'accomplissement de leurs crimes. On arrêtait en plein Paris, comme à l'époque de M. de Larigny, et les voleurs continuaient la tradition de leurs aînés avec d'incontestables progrès dans l'art de dévaliser les maisons. D'autre part, les duels devenaient de plus en plus fréquents entre gentilshommes, en dépit des soldats du guet, qui n'arrivaient jamais à temps pour empêcher les rencontres, mais tout juste assez tôt pour relever les cadavres. En outre, les enlèvements se renouvelaient, comme au plus beau temps des petites maisons, et cela au grand scandale de la population. Très irrité de cet état de choses, qui répondait mal à la confiance que le roi avait en ses capacités, M. de Lignières avait résolu de recourir aux mesures les plus énergiques. L'affaire du pavillon du Bel Air et le dénouement tragique qu'elle avait eu avaient fait grand bruit dans Paris. La cour s'en était émue pendant quelques jours. Puis on s'était occupé d'autre chose. Le beau monde n'avait pas le temps d'accorder de trop longs regrets au petit marquis de Presles. Mais dans la bourgeoisie, on n'oubliait pas aussi vite. Les gazettes avaient parlé de l'enlèvement d'une jeune fille. Qu'était devenue cette malheureuse après le duel? Personne ne le savait, pas même monsieur le lieutenant général de police. La mort du marquis de Presles avait obligé son adversaire à disparaître pendant quelque temps. Le comte de Lignières avait même offert sa démission au roi pour n'avoir pas à sévir contre son propre neveu. Mais Sa Majesté, bien renseignée sur le rôle qu'avait noblement rempli le chevalier de Vaudrey, en cette circonstance, voulut ignorer qu'il y eût eu orgie et duel au pavillon du Bel Air, et pour prouver au comte de Lignières en quelle estime il le tenait, lui avait parlé d'un mariage pour le chevalier de Vaudrey. « Nous en recoserons », avait dit Louis XVI en congédiant le lieutenant général de police. Très ému de la bienveillance du souverain, M. de Lignières avait résolu d'obliger le chevalier à se soumettre à des désirs qui partaient de si haut. Il comptait, pour l'aider à avoir raison de la résistance possible de son neveu, sur la comtesse que Roger affectionnait comme il eût aimé une sœur aînée. La veille, M. de Lignières avait écrit au chevalier d'avoir à se présenter le lendemain à son hôtel. Ce n'était cependant pas pour y attendre son neveu que le lieutenant de police avait passé une partie de la nuit dans son cabinet de travail. Chez M. de Lignières, les préoccupations du fonctionnaire cédaient souvent le pas aux tourments qui agitaient le cœur du mari. 16 ans d'une existence conjugale absolument correcte, de part et d'autre, n'avaient pu éteindre le doute qui, chaque jour, avait plus profondément pénétré dans l'esprit du comte sur le véritable motif de la grande tristesse que Mme de Lignières cherchait en vain à dissimuler. Et ce doute s'aggravait de la tendresse de plus en plus profonde que la comtesse inspirait à son mari. L'affection respectueuse que celle-ci lui témoignait ressemblait à de la résignation. Sa condescendance, sa soumission, exagérée au moindre désir de son mari, le mettait au supplice. Il eût voulu voir se manifester chez l'épouse une volonté qui prouva que la femme était en paix avec sa conscience. Le temps n'avait pu calmer cette surexcitation d'esprit qui le poussait à surveiller sa femme, à épier ses moindres gestes, à s'efforcer de lire dans ses yeux la cause de ses tristesses profondes, de cette existence toujours languissante. Bien des fois, pendant ses heures d'insomnie, M. de Lignières était venu à pas de loup coller l'oreille à la cloison qui séparait sa chambre de celle de la comtesse. Et là, immobile, retenant son haleine, il avait écouté longuement, devinant les pleurs contenus pendant la journée et qui alors se donnaient un libre cours. Il entendait des phrases entrecoupées, des prières étouffées qui s'envolaient vers le ciel au milieu des sanglots et des larmes. Et si nous retrouvons le lieutenant de police assis à sa table de travail, le front appuyé dans ses mains, comme un homme dont l'esprit s'abîme dans une profonde méditation, c'est que le comte avait eu la preuve que Madame de Lignières avait passé la nuit à pleurer et à prier. Et s'il n'avait pas brusquement pénétré dans sa chambre pour surprendre la comtesse en flagrant délit de désespoir, c'est qu'un sentiment de tendresse et de respect l'avait retenu sur le seuil de cette chambre, dont une femme avait fait le sanctuaire de sa douleur. Monsieur de Lignières avait battu en retraite vers son cabinet de travail. C'était là qu'il trouvait depuis 3 mois une dérivation aux sombres pensées dans le travail forcé qu'il s'imposait. Aussi, après avoir relevé la tête, comme s'il se fût arraché à un engourdissement douloureux de l'esprit, pour se souvenir des devoirs que lui imposait sa situation, le comte se mit à compulser les dossiers qui encombraient son bureau. Il parcourait et classait les paperasses, s'interrompant pour écrire de temps à autre quelques notes destinées aux agents qu'il avait fait convoquer pour le jour même. Tout à coup, un pli annoté attira son attention. Sur l'enveloppe étaient écrits ces mots. « Affaire du pavillon du Bel Air. »« Ah, ce rapport » murmura-t-il avec un froncement de sourcils qui témoignait d'une vive préoccupation. Et ouvrant le pli, il y jeta les yeux, parcourant du regard le contenu. Puis il laissa tomber le papier sur la table avec un geste de mécontentement et agita violemment la sonnette. Un huissier parut. « Les employés sont-ils arrivés ? » demanda-t-il d'une voix brève. « Ils attendent les ordres de monseigneur, » fit l'huissier en s'inclinant. « Qu'ils entrent !» L'huissier ouvrit la porte et s'effaça pour laisser passer une demi-douzaine d'individus, en tête desquels marchait un petit homme, au visage de fouine, dont les petits yeux pétillaient sous une arcade sourcilière démesurément proéminente. « Messieurs !» commença le lieutenant de police sans lever les yeux de dessus le rapport qu'il annotait. « Je vous ai fait venir de meilleure heure que d'habitude. Il en sera ainsi chaque matin, jusqu'à ce que j'aie liquidé toutes les affaires que m'a léguées mon prédécesseur. « Nous sommes aux ordres de monseigneur, » répondit, en faisant la bouche en cœur, le petit homme à la figure de fouine. « Je vous fournirai l'occasion de me le prouver, monsieur Marest, » dit le comte en prenant une liasse de papier, puis se levant. « J'ai signé les ordonnances les plus urgentes. Les voici. » Et tout en distribuant aux employés les papiers qui revenaient à chacun d'eux, le lieutenant de police ajoutait « Je ne saurais trop vous recommander de surveiller activement les tripots, les cabarets, tous les bouges qui servent de lieu de réunion aux malfaiteurs. Donnez impitoyablement la chasse aux mendiants. Traquez les voleurs. » « Un gibier qui pullule !» hasarda M. Marest. « C'est à vous d'être le surveillant de ce gibier-là, monsieur !» riposta sévèrement M. de Lignières. Marest s'inclina, les lèvres contractées par le sourire habituel à sa physionomie. Les autres employés se sentaient mal à l'aise sous le regard mécontent du lieutenant de police. Celui-ci reprit, ponctuant chacune de ses phrases. « Le roi ne veut pas que les scandales du précédent règne se renouvellent. Il faut mettre un terme aux attaques nocturnes, à ces enlèvements criminels qui portent la honte et le désespoir dans les familles. » S'adressant alors à Marest. « Vous m'avez remis à ce sujet un rapport sur lequel j'ai des explications à vous demander. C'est une affaire fort grave. Restez !» L'employé s'inclina. « Quant à vous, messieurs, » ajouta le lieutenant de police, « vous pouvez vous retirer. » Une fois seul, en face du petit homme aux yeux pétillants, M. de Lignières prit un air sévère. « Comment peut-il se faire, M. Marest, » dit-il d'un ton bref, « qu'une jeune fille soit enlevée, en plein Paris, à 8 heures du soir, sans que personne s'y oppose ?» L'employé, avec un sourire affecté, répondit « Il y a des coquins si habiles, monseigneur !» La riposte à cette réponse, qui empruntait une forme plaisante, ne se fit pas attendre. « Alors nos agents ne le sont guère !» s'écria le comte en fronçant les sourcils. Le petit homme ne fut pas démonté. Baissant les yeux pour regarder en dessous son interlocuteur irrité, il répondit d'une voix humble. « Je ferai observer à monseigneur que ce sont les agents de monsieur le lieutenant général de police qui ont découvert les complices de ce rapt et les ont forcés de parler. » Le comte de Lignières garda pendant quelques secondes le silence. Il était évident qu'il lui répugnait d'avoir à revenir même incidemment sur le duel qui avait ensanglanté le pavillon du Bel Air. Mareste, qui, bien qu'à demi incliné, ne le quittait pas des yeux, jouissait intérieurement de l'embarras dont il était témoin et dont il devinait le motif. Au bout de quelques instants, pendant lesquels il avait eu l'air de consulter le rapport, M. de Lignières reprit. « Et depuis 3 mois que ce rapt a eu lieu, les coupables n'ont pas été poursuivis ?»« Non, monseigneur. Pourquoi ?» Mareste jugea à propos de prendre une attitude des plus humbles. Et c'est en tortillant les bords de son tricorne qu'il prononça ces mots. « Monseigneur, cela tient à certaines circonstances. » Le lieutenant de police se mordit les lèvres, puis très pâle et se contenant. « À quelles circonstances faites-vous allusion, monsieur Mareste ?»« Parlez, je le veux. » Et sans attendre la réponse qu'il ne devinait que trop. Le pavillon du Bel Air était la propriété du marquis de Presles, le dernier rejeton d'une famille illustre. Je sais que ce gentilhomme a mis sa gloire à se faire donner un coup d'épée en disputant une fille perdue à...
Oui, monseigneur.
Ah ? C'est bien, interrompit le comte de Lignières. Ce que je veux savoir, c'est ce qu'est devenue cette fille, après le duel. Mareste semblait hésiter à répondre. Le lieutenant de police se laissa prendre à ce jeu de physionomie d'un habile comédien, et renouvelant sa question sous une forme plus précise. Qu'est devenue cette fille? Le savez-vous seulement? Oui, monseigneur. Monsieur de Lignières se maîtrisa pour ne pas sursauter. Tournant brusquement le dos à l'employé, il était allé s'asseoir dans le fauteuil devant la table. Mareste l'observait du coin de l'œil. Il le vit prendre une liasse de paperasse qu'il froissa d'une main fiévreuse. Et à part soi, le rusé gaillard se disait « Nous y voici, mon bonhomme. Il va falloir se décider à en entendre de dur à présent. » Mareste était resté à la place qu'il occupait, attendant qu'on l'interrogeât. De la main, M. de Lignières lui fit signe d'approcher. Puis, assurant sa voix par l'effet d'une volonté qui ne se démentait jamais, « Parlez !» dit-il. « Mais parlez donc !» L'employé s'inclinant. La jeune fille à laquelle s'intéresse monseigneur a été, après le duel, emmenée. Par qui ? S'exclama le lieutenant de police en frappant du poing sur la table. Par l'adversaire du marquis de Presles. Par mon... Il n'acheva pas. Ce fut Mareste qui continua imperturbablement. Par le neveu de monseigneur. Cette fois, l'employé savait qu'il allait pouvoir prendre sa revanche du ton brusque et des grands airs de son supérieur. Et jouant l'homme qui a fidèlement rempli son devoir, il ajouta, à la façon dont les naïfs débitent le récit d'exploits pour lesquels ils attendent des félicitations, « Nous connaissons tous les gentilshommes qui se trouvaient, cette nuit-là, dans la petite maison de défunt le marquis de Presles, et aussi toutes les demoiselles qu'on y avait amenées. Nous savons... C'est bien !» Mareste se tut. Le lieutenant de police s'était levé et marchait à grands pas. « Eh bien !» continua-t-il d'une voix grondante. Ces gentilshommes comprendront bientôt que de pareilles saturnales ne peuvent plus être tolérées, qu'elles déshonorent la noblesse, et qu'à l'époque où nous sommes, il ne suffit plus de porter un beau nom, il faut savoir le porter dignement. Et avec un geste impérieux. Quant à ces demoiselles, ajouta-t-il, quant à ces filles pour lesquelles nos enfants se ruinent, s'avilissent et se tuent, nous leur donnerons à choisir entre la salpêtrière et la Guyane. Le petit homme cligna de l'œil, ébaucha un sourire niais, puis simulant un certain embarras, dit en hésitant avant chaque mot. « Monseigneur ne veut pas sans doute que cette affaire soit comme les autres consignée. »« Consignée où ?» demanda M. de Lignières surpris. « Dans les archives de la police ?» Le comte se radoucit aussitôt. « Elles existent donc réellement, ces archives ?» interrogea-t-il. « Au grand complet, monseigneur, et tenu dans un ordre parfait. » Et comme le lieutenant de police, devenu subitement rêveur, semblait réfléchir, l'employé continua. « Il n'y a pas une famille en France qui n'ait dans ses archives toute son histoire. Les drames les plus mystérieux, les détails les plus intimes, rien n'a été omis. » Puis, comme s'il eût été heureux de donner immédiatement la preuve de ce qu'il avançait, « Monseigneur n'a qu'à citer un nom. Je cours interroger le volume, et dans 5 minutes... » Monsieur de Lignières fit un geste d'impatience. « C'est bien, » dit-il d'un ton glacial. « Et puisque la maison de Lignières a comme toutes les autres son dossier, je veux que vous y inscriviez tout ce qui la concerne. » Il avait adressé à son interlocuteur un regard froid, et sans s'arrêter à l'air ébahi de l'employé, « Je l'ordonne, » dit-il. « Quoi ? » balbutia Marest. « Monseigneur exige ?» Alors, le lieutenant de police se redressa sous cette piqûre faite insidieusement à sa conscience de magistrat intègre. Toisant d'un regard hautain l'homme qu'il avait supposé capable d'une faiblesse dans l'accomplissement de son devoir, il prononça d'une voix ferme, martelant chaque mot. « J'ai promis au roi de réprimer sévèrement. Monsieur, et le magistrat, sévère pour tous, doit être implacable envers les siens. » Puis avec un geste impérieux. « Allez, monsieur, allez !» Marest ne s'était pas attendu à cette conclusion qu'il trouvait stupéfiante, s'inclinant sans affectation cette fois. « J'obéirai, monseigneur, » dit-il humblement. Et se retirant à reculons, avec force salutation, l'employé se jeta dans Picard, le valet de chambre du chevalier de Vaudrey, lequel avait entrebâillé la porte avec le sang-gêne d'un vieux serviteur et attendait qu'on l'autorisât à entrer.